Bonjour David, bonjour à tous. La rentrée politique du Parti Socialiste de Sévrier avec un Conseil fédéral le samedi dernier. L'occasion notamment pour les militants de largement débattre de l'arrivée de Michel Barnier à la tête du futur gouvernement. Des vendanges ni figues ni raisins dans le Touarçais cette année, d'autant plus que certaines parcelles ont été touchées par la grêle le week-end dernier. Les balades paysannes du CIBAM du Haut-Bocage le week-end à venir. C'est la commune de Saint-Pierre-les-Échaubrognes qui accueillera cette 9e édition. La grande famille du Théâtre du Bocage réunie cette fin de semaine et week-end à Bressuire. L'association y célébrera en effet son 60e anniversaire. Et cette question, quel avenir pour les Chamoignortais? C'est aujourd'hui que le tribunal de commerce doit rendre son jugement. L'inquiétude est grande, notamment du côté du district. Quant à la météo, un peu plus de nuages cet après-midi, mais l'impression de beau temps persistera. La rentrée donc du Conseil fédéral du PS des Deux-Sèvres samedi dernier à Argent-Donné. Vous l'imaginez bien que ce conseil a bien sûr été marqué par la nomination de Michel Barnier en fin de semaine dernière à Matignon. Après les résultats des dernières élections législatives, la gauche espérait bien évidemment une autre issue, plus favorable à son courant. Émile Bréjon, co-secrétaire fédéral du PS en Deux-Sèvres.
La logique n'est pas respectée. Et puis surtout, ce qui est à mon avis très dommageable pour l'ensemble des Français, c'est qu'on va continuer, je pense, avec la même politique qui consiste à baisser les impôts, baisser les cotisations et faire penser qu'en diminuant le budget de l'État et en diminuant le budget de la sécurité sociale, on peut continuer à avoir de bonnes retraites, des hôpitaux qui fonctionnent, des recrutements dans la police et dans la magistrature sans augmenter les moyens. Et donc en les diminuant, forcément, on finit par mentir aux gens et on fait en sorte que tout ça ne fonctionne plus.
Vous l'avez entendu, les consultations se poursuivent donc à Matignon et le Premier ministre va essayer de constituer un gouvernement incluant des personnes de gauche. Mais les socialistes doivent-ils accepter d'y prendre part? La réponse d'Émile Bréjon, toujours au micro de Fabien Gazot.
À partir du moment où on aurait les coups des franches, pourquoi pas? Le problème, c'est que la politique va être la même, à savoir on a à la fois des déficits, donc il va falloir les résorber, et les résorber, ça va être en faisant des coupes franches, sauf que encore une fois, il faut bien que tout le monde ait en tête qu'on a provoqué ces creusements de déficits et ces déficits, puisqu'on a baissé les impôts et les cotisations. Quand on a baissé la taxe d'habitation, on a enlevé 18 milliards au budget de l'État. Voilà, avec un seul exemple, ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Donc, un homme de gauche dans un ministère n'aura pas la possibilité de mener une politique de gauche qui consiste à encore une fois, répondre aux besoins immenses des attentes des Français.
Le PS des Deux-Sèvres qui constate toutefois un regain d'adhésion depuis les élections européennes. Cela fait au moins une satisfaction pour les militants qui vont continuer à travailler les sujets locaux. Le Parti communiste se dit, lui, scandalisé dans un communiqué par le soutien du département au collège privé, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière. Pour le PCF des Deux-Sèvres, je cite, « Le conseil départemental organise et développe une concurrence libre et complètement faussée entre les collèges publics et privés. » Le Parti communiste souligne également dans ce même communiqué que l'État est aussi coupable du financement public de l'enseignement privé sous contrat. Fin de citation. 157 616, c'est le nombre précis de Sévriens qui bénéficient de l'aide de la CAF, ce qui représente 42% de la population de Sévrienne, indique la caisse d'allocation familiale. Parmi les allocataires, 51% sont des familles avec enfants, dont 28% de familles monoparentales, des bénéficiaires d'ailleurs plus nombreux dans le Bocage et sur le Niortais. À signaler encore que les étudiants représentent 2% des personnes aidées, soit un peu plus d'un millier en Deux-Sèvres. En Touarçais, des vendanges en demi-teinte qui se recalent sur le calendrier. Fini en effet les vendanges précoces. Cette année, les vignerons du Touarçais, comme ceux de Longjou, retrouvent un calendrier normal. Pour autant, les volumes devraient être revus à la baisse. À plus forte raison pour les parcelles frappées par la grêle le week-end dernier. Revue de détail avec Sébastien Prudhomme, ancien directeur du lycée viticole de Montreuil-Bellay, ancien vigneron au domaine familial de la Roche-Lambert à Mauzé-Touarçais. Il est au micro-colline de Dominique Hérault.
La majorité des vignerons là, du nord de Sèvres vont attaquer à partir du lundi 16 septembre, alors qu'on a vécu quelques millésimes. Nous avons démarré plutôt fin août. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre de récolter a priori dans de meilleures conditions, avec des températures plus fraîches, ce qui est plus qualitatif, notamment pour l'élaboration des rosés. La deuxième caractéristique du millésime 2024, ça a été une pluie relativement abondante qui nous ont obligés à être très très vigilants pour le mildiou. Au niveau de la quantité, l'année dernière nous avions une grosse récolte et cette année la récolte devrait être plus faible et beaucoup plus faible dans certains secteurs du nord de Sèvres qui ont été impactés par la grêle le samedi 7 septembre, hein, où certains vignerons ont perdu de la récolte par la grêle, hein, notamment dans les secteurs de Cercey, Saint-Pierre-à-Champ. Le problème, c'est que si la grêle intervient, comme c'est le cas chez nous, à 15 jours de la récolte, eh bien là, le fait que les grains de raisin soient hachés ouvre la porte à ce qu'on appelle la pourriture grise, hein, le botrytis. Là, c'est beaucoup plus problématique.
De quoi compliquer le travail de vinification pour obtenir la qualité souhaitée. En moyenne, la récolte sera rabotée de 20% par rapport à l'an dernier et sans doute davantage pour les parcelles du Nord Toircé malmenées par le dernier épisode de grêle. Reportage signé Dominique Hérault. La 9e édition des balades paysannes ce week-end des 14 et 15 septembre à Saint-Pierre-des-Échaubrognes. Et comme d'habitude, ces balades organisées par le CIVAM du Haut-Bocage, le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, invitent tout un chacun à venir découvrir des fermes dont la philosophie est de produire durablement tout en recréant du lien entre producteurs et consommateurs. Reportage signé Jacqueline Pinon.
Pour le tout, dans une ambiance festive où les animations pour petits et grands vont s'enchaîner. Stéphanie Prestavoine est animatrice au CIVAM.
Le concept, c'est vraiment de mettre en lien les gens avec les paysans du territoire et les paysannes, qu'ils aient l'occasion en fait de découvrir les manières de produire, les manières d'élever, de poser toutes les questions qu'ils souhaitent et de mieux comprendre comment tout simplement le produit qui arrive dans leur assiette, qui peut être et local et durable, est élevé, est produit, est transformé. Et c'est tout ça dans une ambiance conviviale.
Deux fermes bio seront ouvertes tout ce week-end, les Thaïlanderies et les Assais. La première, exploitée par Jean-Baptiste Coiffard et Estelle Pouzin, élève des maréchines, l'ancêtre de la partenaise et des armoricaines. Des moutons et des volailles viennent compléter l'exploitation de 94 hectares dont 20 de culture réservée à l'alimentation des humains. Le couple, lui ingénieur de formation, elle sage-femme à mi-temps, gère la ferme avec un salarié. Ils ont souhaité se lancer en reprenant la suite du père Marc Pouzin. Jean-Baptiste Coiffard.
En fait, à un moment, je me suis dit, faut y aller. C'est pas que en regardant les autres qu'on fait, et c'est comme ça qu'on décide des choix, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on se teste et qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est là qu'on évolue et qu'on s'adapte à sa ferme et à ses ambitions. L'investissement est géré par rapport aux ambitions du système, et du coup, ça permet de pouvoir s'installer sans avoir à mettre une pression financière sur la ferme. Quoi, quand on parle pas d'autonomie financière parce qu'on dépend quand même des banques, mais n'empêche que la pression est moindre parce que on choisit un système qui a besoin de moins d'investissement.
Juste à côté, la ferme des Assais de Dominique Gazot, distante de moins d'un kilomètre, les visiteurs pourront la rejoindre à pied. Là encore, on tend vers l'autonomie grâce à une maîtrise des charges. Dominique Gazot.
50 hectares, il y a des bovins à l'étang, je fais 30 vélages par an. Et je vends les produits en veau sous la mer, notamment les mâles, en général vers 5-6 mois. Je fonctionne beaucoup en prairie, je donne quasiment pas de céréales pour mes bovins. Des céréales que je produis et je les vends pour faire du pain, pour les meuniers quoi.
Par exemple, vous, la crise énergétique, vous ne l'avez pas ressentie?
Pas le moins du monde, parce que du fait que j'utilise pas beaucoup de carburant et j'achète pas d'aliments, donc moi, je n'ai pas ressenti la crise de l'énergie.
Est-ce que ça veut dire que vous vivez bien de votre métier avec une petite exploitation?
C'est vrai qu'avec 30 vaches, plus 50 hectares, j'en vis correctement. Comme tout le monde, j'ai pas droit à l'erreur, mais pour l'instant, ça fonctionne.
La transmission de la première vient de se faire, la session de la deuxième se prépare. Comment s'installer paysan paysanne avec le CIVAM? Ce sera le thème central évoqué lors de ces balades paysannes à travers ces deux fermes.
Merci Jacqueline. Ce week-end à Saint-Pierre-les-Échaubrognes s'ouvrira par une rando dès 9h samedi avant nombre d'animations telles que des jeux pour petits et grands, expo photo, coin lecture, coin causerie, épicerie éphémère de produits locaux pendant ces deux jours. Un apéro-concert et un repas local sont proposés samedi soir, mais il est obligatoire de réserver au plus vite au 05 49 81 80 29. Que de chemin parcouru en 60 ans. Cette fin de semaine et week-end à venir, l'association Théâtre du Bocage célébrera en effet son 60e anniversaire. Née en 1964 sous le nom d'ACAP, comprenez Association des comédiens amateurs Poitevin, qui deviendra assez rapidement Théâtre du Bocage. Un virage important a été pris en 1979 avec la création d'une compagnie professionnelle, une des rares d'ailleurs à l'époque en Poitou-Charentes, en parallèle de la pratique amateur au travers des divers ateliers. Autre date importante, 2012, l'association s'installait à la Maison des Arts, boulevard Nérisson à Bressuire. Bruno Auger, co-directeur de l'association Théâtre du Bocage.
L'association Théâtre du Bocage, c'est toujours une compagnie professionnelle avec des spectacles qui tournent dans les théâtres, dans les établissements scolaires. On rayonne sur la région et ailleurs. Et c'est aussi, évidemment, toujours et surtout, parce que c'est notre identité, notre ADN, c'est des troupes amateurs et des interventions et de la transmission. Voilà, le Théâtre du Bocage est né de l'éducation populaire. Et en même temps, on essaye d'avoir cette exigence artistique qui nous mène et qui fait qu'on crée aujourd'hui encore énormément de spectacles avec les amateurs et aussi avec les professionnels. On a aujourd'hui 3 ateliers en direction des adultes, 4 ateliers amateurs pour enfants. Et on a décidé de collaborer avec le CSC de Cerizay pour ouvrir un nouvel atelier, parce que nos ateliers sont pour la plupart complets, il y a énormément de demandes. Donc on travaille avec un atelier théâtre qui existe depuis 2 ans à Cerizay. Voilà, on l'intègre aujourd'hui à la proposition du Théâtre du Bocage.
Les 60 bougies de l'association Théâtre du Bocage seront donc soufflées cette fin de semaine et week-end dans et aux abords de la Maison des Arts à Bressuire, avec notamment au programme plusieurs représentations. Colline Achilly, co-présidente de l'association.
L'idée, c'est de faire une grande fête en présentant tous les spectacles de la compagnie pro, et puis avec un moment festif autour d'une cérémonie pour à la fois se souvenir des fondations du Théâtre du Bocage, et puis se projeter sur ce qu'on veut proposer et continuer à faire au sein du Théâtre du Bocage. Donc ça démarre le vendredi 13 septembre avec un spectacle qui s'appelle La Devise à 21h. Donc c'est à la Maison des Arts. Il se passera en extérieur. Et puis après, le samedi, on va démarrer dans l'après-midi à 16h avec Maestro, qui est un spectacle familial et musical. Et puis le spectacle Seulement ça, le soir. Et on essaiera de finir le week-end en beauté avec Looking for Loukoum à 16h le dimanche 15 septembre et Sans négrier à 20h. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Je crois que chacun peut trouver vraiment du plaisir à venir et puis à échanger avec nous.
Les 60 ans de l'association Théâtre du Bocage, c'est donc vendredi, samedi et dimanche. Les jauges pour certains spectacles étant limitées, il est vivement conseillé de réserver. Toutes les infos sont sur le site de l'association. Le déménagement a déjà commencé pour la communauté Emmaüs de Thouars-Vrine, dont le nouveau site doit ouvrir le samedi 5 octobre sur la zone Talencia pour vider les locaux actuels rachetés par le blanchisseur Annette. Une grande liquidation est ouverte jusqu'à samedi prochain, le 14 septembre. Mardi, donc aujourd'hui et demain, de 14 à 18h. Vendredi et samedi, de 10 à 18h. C'est aujourd'hui que le tribunal de commerce rend son délibéré concernant les chamois niortais. La structure professionnelle sera-t-elle placée en liquidation ou en redressement judiciaire ? Autre question, va-t-elle entraîner l'association dans sa chute ? En tout cas, la Ligue attend la décision du tribunal pour décider du sort réservé aux chamois. Vont-ils démarrer en R1, R2 ou R3 ou être également exclus des championnats régionaux ? C'est en tout cas une vraie catastrophe pour le football départemental, estime Alain Rouget, le président du district, joint par Fabien Gazot.
C'est dramatique. En très peu d'années, on arrive à saborder un club comme le Chamois, c'est terrible. Club connu pour son professionnalisme. Aujourd'hui, ce club est en grande difficulté. Comment ça va se passer, je ne sais pas trop. Par ailleurs, les Chamois, vous savez, tellement attractifs avant, étaient club support de sections sportives. Je pense à l'avenue Gerte et Fontaine. Donc, quid de l'avenir de ces sections ? Pour l'instant, ça va, mais demain, j'ai peur. Est-ce que les jeunes voudront venir à Fontaine ou à la Venise Verte en n'ayant plus de club professionnel à proximité? C'est une réelle question. C'est dramatique pour le Niortais et plus largement pour le département.
Une équipe Fagnon des Chamois Niortais qui repartirait en district, c'est pas exclu, hein, c'est une possibilité. Vous vous y préparez?
Dans l'absolu, oui, on peut avoir une équipe des Chamois qui reparte en district, mais est-ce que les Chamois voudront bien repartir en district, ça c'est une autre question. Et est-ce qu'ils auront suffisamment de licenciés pour repartir?
C'est une autre question, oui.
Alain Rouget, le président du district de football des Deux-Sèvres, à propos des chamoignortés. Le tribunal doit, je vous le rappelle, rendre sa décision ce mardi. La Fédération française de football décidera alors de l'avenir des chamoignortés dans 48 heures.